Good Morning Business, le débrief de la matinale.
La bataille des prochaines semaines, des prochains mois sans doute, la bataille de la place de Paris autour de Casino. Casino surendetté, 6 milliards de dettes, qui va sans doute cette semaine appeler à la conciliation pour effectivement départager entre les deux offres, celle qui demandera le plus ou le moins de décote auprès des créanciers. Mathieu Pechberti nous explique tout ça.
Partenaires, actionnaires et créanciers se préparent à entrer dans l'arène. D'ici la fin de la semaine, Casino doit entamer une procédure de conciliation avec ses banques. L'objectif est de restructurer 6 milliards d'euros de dettes, d'en annuler une partie et de repousser les échéances de ce que Casino pourra encore supporter. Tout dépendra de combien le groupe sera renfloué. Pour le moment, une seule offre d'augmentation de capital est sur la table. Daniel Kretinsky propose d'injecter plus d'un milliard d'euros dans Casino. L'homme d'affaires tchèque demande en échange que les banques annulent massivement la dette du groupe. Avant le week-end, il a reçu le ralliement important de Fimalac, actionnaire de Casino. Le milliardaire Marc Ladret de La Charrière était jusqu'ici un soutien indéfectible du PDG Jean-Charles Naouri. En face, Casino discute toujours avec Teract pour réunir leurs enseignes. Et si le projet de Moëz Zouari manque jusqu'ici de cash, son partenaire Xavier Niel est prêt à apporter 250 millions d'euros. Le conciliateur devra déterminer si c'est suffisant pour convaincre les banques de le suivre.
Avec nous pour débriefer, Wilfried Galland, Éric Delannoy, Emmanuel Le Chypre et Benaouda Dedaïm. On a clairement deux camps. Il y a ceux qui votent pour l'offre Kretinsky et ceux qui votent pour l'offre Teract Niel. Vous êtes dans quel camp, Wilfried ?
Je pense que, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, on rentre dans le money time sur ce dossier-là. Le dossier Casino, là où je rejoins Éric, c'est effectivement un dossier où les difficultés industrielles se sont accumulées, mais c'est un dossier où les complexités financières et l'ingénierie qui a été mise en place finit par être tellement difficile et tellement lisible, tellement peu lisible dans un contexte justement économique compliqué.
Ça, c'est le génie de Jean-Charles Naouri jusqu'à présent.
Ouais, exactement. Qu'en fait aujourd'hui, la continuation n'est plus possible malgré les talents de financiers indéniables de Jean-Charles Naouri. Et donc là, effectivement, il faut traiter en priorité, en tout cas.
Donc vous votez Kretinsky.
En tout cas, il faut traiter en priorité le problème financier. Sinon, on peut résoudre le problème, mais le problème, c'est que si on le résout, on peut être mort avant. En fait. Donc il faut d'abord régler un problème de survie de Casino. Mais effectivement, on ne peut régler ce problème de survie à moyen terme que si on traite les sujets qui ont conduit Casino à ce problème-là, qui sont effectivement des problématiques business de distribution, de format de distribution, d'organisation, qui sont effectivement très complexes.
Oui, mais attention, Wilfried, parce que Daniel Kretinsky, il demande en échange une forte décote des créances des banques.
Bah, c'est normal, c'est lui qui arrive avec le plus d'argent. Donc quand vous arrivez avec le plus d'argent cash, vous dites, moi je règle le problème tout de suite, mais en échange, oui. En fait, c'est comme un financier qui achète de la dette en situation qu'on appelle distressed, c'est-à-dire en fait avec une forte chance d'aller au tapis. Vous dites le prix du risque est tellement élevé que le prix du risque me conduit à demander une décote très forte. Et donc en général, la décote dans les marchés financiers, quand on a une décote très forte sur une obligation, c'est à peu près 40 à 45%.
Éric, vous êtes plutôt pour l'offre Teract Niel Pigas.
En réalité, la problématique de la dette, c'est une problématique qui est liée au fait que, n'ayant aucune marge de manœuvre pour pouvoir gérer des marges, puisqu'il y a une telle demande de remboursement et de gestion de cette dette-là, qu'en fait, on fait d'un problème industriel un problème financier. Or, le problème financier ne pourra pas se résoudre, effectivement, s'il n'y a pas de résolution du problème industriel. Or, l'offre de M. Kretinsky, elle règle un problème financier par le financier, ce qui est quand même, en fait, ça s'appelle de la fuite en avant, par de la restructuration de la dette. Je pense que avoir de la négociation de dette avec les banques qui vont vouloir des clauses de revoyure, des annulations de dette comme ça, je pense que ça va être un peu compliqué. Il va falloir que ça s'appuie sur un projet qui restaure la rentabilité du groupe, qui donne des marges de manœuvre au groupe, notamment sur les marges, qui fasse en sorte qu'il y ait une adaptation des prix, puisque le groupe Casino est un groupe qui n'a pas réussi à adapter ses prix par rapport à la conjoncture du fait de la pression très forte des aspects financiers, et qu'à partir du moment où ils vont retrouver des marges de manœuvre financières, ils vont pouvoir mettre en place un modèle industriel qui soit plus rentable.
Éric, intéressant, vous le disiez dans l'offre de Teract, c'est que c'est une intégration verticale. Jusqu'à présent, on n'a vu que des projets horizontaux, Carrefour, Couche-Tard, Carrefour Casino à une époque. Là, pour la première fois, on associerait en fait les producteurs, des enseignes spécialisées dans le jardinage, dans l'alimentation et un généraliste.
Dans la grande distribution, il y a deux grands enjeux. Il y a un premier enjeu qui est revoir les formats de distribution, et on est bien là sur de la problématique horizontale. horizontale. C'est est-ce que je vais dans les centres-villes, est-ce que je sors des périphériques, quels sont les formats les mieux adaptés, grande surface, pas grande surface. En l'occurrence, Casino a un problème de rentabilité de ses grandes surfaces.
Ouais. Alors que Monoprix marche bien.
Mais qui est en dehors du deal. Et le deuxième enjeu de la grande distribution, c'est effectivement la problématique de rentabilité de la filière, c'est-à-dire toute la problématique d'intégration verticale. On le voit d'ailleurs en ce moment avec les négociations qui sont reprises entre les producteurs et les distributeurs. On estime pour un groupe Casino que s'il supprimait des intermédiaires en faisant l'intégration verticale des producteurs vers les distributeurs, il y aurait une économie potentielle de 4 milliards. Donc on voit bien que la multiplication des intermédiaires qui servent les centrales d'achat, qui servent enfin, beaucoup de gens sur le marché, aujourd'hui est un facteur de baisse des marges de Casino. Et que par ailleurs, l'intégration verticale permet de répondre à des besoins clients qui est vers le plus de frais, le plus local, etc. Comme le fait Grand Frais ou comme le fait Système U.
On va bien sûr suivre ce dossier-là toute la semaine. Autre dossier.
Peut-être juste un mot quand même, parce que Emmanuel, la guerre entre Xavier Niel et Daniel Kretinsky. Parce que c'est ce qui va se jouer là, c'est-à-dire
j'ai aucune idée sur le sujet.
Parce qu'ils sont comme alliés, notamment au sein de certains investissements comme Le Monde, et là ils rivalisent de centaines de millions. Pas d'idée.
Non.
Alors Ben Aouda en aura sur nous sans doute, parce que cette saga Daniel Kretinsky en Europe, on sait qu'il a pris 25% de Fnac Darty. Là, il s'intéresse à la grande distribution généraliste. C'est quoi ses ambitions ?
C'est très étrange d'ailleurs qu'on n'arrête pas de dire que c'est un homme d'affaires tchèque, mais on ne prend pas effectivement la dimension européenne de cette personnalité. Et de ce point de vue-là, il est dans une aventure franco-française qui est assez paradoxale, au sens où il n'a pas donné une dimension européenne à son offensive commerciale financière, et que certains disent s'il inscrivait cette démarche dans une démarche plus large, qui est celle uniquement de la dimension du marché français, peut-être qu'il y aurait une forme de déséquilibre entre lui et cette offre française. Mais pour l'instant, on dirait un Français contre d'autres Français. Et ce qui est paradoxal, encore une fois, c'est un Tchèque.
Dossier bien sûr passionnant à suivre. Autre dossier passionnant à suivre avec vous, Ben Aouda, les banques américaines et cette succession chez Morgan Stanley. Il y a des prétendants, mais ils ont tous le même profil. Et ça ne passe plus.
Alors, ce sont des prétendants qui ont été filtrés, refiltrés, et ce n'est qu'une confirmation. Alors, il faut partir du fait que James Gorman, c'est vraiment le PDG de Morgan Stanley, un pilier de Wall Street, une figure emblématique qui a permis à Morgan Stanley non seulement de sortir de la débâcle de 2008, mais qui, lorsqu'il y a eu... Maintenant, lorsqu'on compare la capitalisation boursière de Morgan Stanley par rapport à la valeur comptable, c'est maintenant au-dessus de JP Morgan, c'est au-dessus de Bank of America, c'est au-dessus de Goldman Sachs. Encore une fois, en prenant les indicateurs S&P. Mais la question, c'est de se dire, est-ce qu'on peut continuer, encore une fois, à passer les rênes d'un sexagénaire blanc, classique, à un quinquagénaire blanc, classique. Et ça pose problème à un certain nombre, non seulement de militants de la cause... féminine et de la diversité aux États-Unis, mais un certain nombre de gérants de fonds, de gérants de fonds, comment on dit, de fonds de commun de placement à impact, de cabinets de consultants qui expliquent qu'il faut maintenant ouvrir, qu'il faut faire monter des nouvelles générations pour pouvoir garder ces nouvelles générations dans le métier, et qu'il va falloir ouvrir ce jeu-là. Et de ce point de vue-là, il semble qu'il soit très loin du compte. C'est une étude de Deloitte qui établit qu'il y a seulement 5% de femmes PDG dans le secteur financier aux États-Unis, et c'est uniquement Citigroup qui a une DG depuis 2021. Sinon, tout le reste, c'est vraiment très uniforme et ça pose problème.
Vous avez une idée sur le sujet, Emmanuel, sur celui-ci ou pas ?
Un peu plus.
Ah, alors ?
Un peu plus. Non, mais c'est vrai que alors, la difficulté, c'est que souvent, les patrons des très grandes banques américaines sont issus d'un long processus de sélection interne et qui viennent en général... c'est assez rare qu'il y ait des énormes transferts, entre guillemets. Ouais. Donc, le problème, c'est qu'effectivement, là, on est sur des analyses, entre guillemets, des trajectoires de carrière qui demandent 10 ans, 20 ans, 30 ans de track record. Donc, je pense que c'est pas à cette génération-là qu'on verra encore arriver plus de diversité à la tête des grandes banques américaines. Après, il faut reconnaître que c'est pas... être blanc, 50 ans, etc., c'est pas forcément ce qui vous discrédite. Hein. Il faut regarder les performances aussi. Donc pour le moment, voilà, parmi les trois, ils ont tout. Enfin, celui qui part, il était blanc, il avait tous les codes traditionnels.
Mais là, il y a un problème de vivier,
Il a quand même. Je pense que déjà, quand vous regardez à l'embauche, entre guillemets, ça s'est considérablement diversifié. Donc il va falloir que ces générations maintenant plus diverses, par genre, par origine, etc., cheminent dans la trajectoire de carrière de la banque. Ça veut dire que si c'est...
Il faut 25 ans en général pour créer de la diversité.
Il y a une éditorialiste, Liz Hoffman de Sémaphore, qui explique qu'il y a, ça va au-delà de ça et qu'il y a un phénomène d'éviction. Par exemple, qu'il y a eu un profil très intéressant, selon elle, chez Morgan Stanley, qui est maintenant directrice financière de Google, et qu'à chaque fois qu'on s'approche vraiment en périphérie du sommet de la pyramide, il y a un phénomène d'éviction qui se fait par communautarisme, parce qu'on veut être entre soi, entre même origine, ethnique, d'âge, etc. Et de ce point de vue-là, c'est un problème qui est posé pour un certain nombre d'observateurs américains.
Ça tiendra plus longtemps.
Wilfried, le wokisme dans la finance, ça ne...
Je pense que effectivement le véritable sujet, c'est effectivement il y a un sujet de performance. Hein, clairement, quand les performances ne sont pas au rendez-vous, c'est beaucoup plus simple de faire un grand changement. Quand les performances sont parfaitement au rendez-vous, c'est vrai que la tentation classique, c'est de dire on va être dans la pure continuité, donc dans les cercles qui sont très proches. Mais le véritable sujet, c'est effectivement comment est-ce qu'on crée un vivier? Comment est-ce que effectivement, au-delà, et là effectivement, j'ai pas les indications sur comment est-ce que dans les différents comités qui sont sous l'entité de direction chez Morgan Stanley, comment est-ce que comment progressent les talents? Comment sont sélectionnés les talents? Comment est-ce qu'ils sont sélectionnés? Comment est-ce qu'on les fait progresser? Et c'est au bout de ça qu'effectivement il faut prendre la décision. Le sujet, c'est un sujet effectivement de donner à chacun sa chance pour éviter le phénomène.
Là, on en est à ne pas les faire fuir.
Voilà,
c'est
exactement.
Un sujet politique.
Et de ne pas les évincer à un moment donné, sachant qu'effectivement, la tentation de l'entre-soi dans tous les domaines et dans tous les secteurs.
Non, c'est un sujet éminemment politique.
Bien sûr.
Et si vous voyez comment une chronique du Wall Street Journal, il y a deux mois, d'un gérant de hedge fund, a dit SVB, la faillite, c'est parce qu'il n'y a pas 12 hommes blancs. Il a laissé entendre très clairement, il n'y a pas 12 hommes blancs autour du conseil d'administration, mais que SVB a mis en avant qu'il y avait 45% de femmes, deux anciens combattants UNLGBT, était une personne noire, il établit ce lien-là. Il se dit, si ce chroniqueur conservateur, si on avait eu 12 hommes blancs, SVB n'aurait pas coulé.
Éric Delannoy.
Non, enfin, moi, je trouve que c'est des débats assez surréalistes qui montrent qu'il y a une bien-pensance insupportable qui s'installe sur le fait qu'on veut remplacer le communautarisme blanc par un communautarisme qui sera autre chose. Enfin, bref, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. On parle de performance de banque. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quelle performance dont on parle. Mmh. Est-ce que c'est de la performance financière? On multiplie par 2, par 3 les performances financières. Au risque d'ailleurs de créer des produits insupportables, de prendre des positions insupportables, ou est-ce qu'on prend en compte une performance globale qui fait en sorte que la performance financière s'associe à la performance environnementale, qui s'associe à la performance sociale?
C'est possible,
sociale.
Ça ou pas?
Mais bien sûr, c'est possible. Il y a des banques qui le font. Et d'ailleurs, JP Morgan le fait beaucoup mieux que Morgan Stanley. Ouais. Et bizarrement, JP Morgan a préparé sa succession avec plutôt des femmes.
Ouais.
Mais c'est plutôt une conséquence qu'une cause.
Après, je veux dire, si on regarde toutes les études qui auscultent les performances en fonction de la diversité, des conseils d'administration, etc. Manifestement, il y a une corrélation assez forte entre les résultats d'une entreprise et la diversité. C'est-à-dire qu'en gros, oui, c'est vrai que vous êtes meilleur quand vous arrivez à finalement à associer, à confronter les points de vue de gens qui viennent d'horizons, de cultures, de sexes différents. Oui, globalement. Enfin, après, il y a les chiffres sont assez précis. C'est 20-30% parfois de surperformance. Donc oui, la diversité, c'est riche et surtout sur des sujets éminemment, effectivement, intellectuels, entre guillemets, comme la finance, dans lesquels on peut se dire que multiplier les approches, c'est plutôt enrichissant. Ça ne peut que fonctionner.
On peut parler d'autres transitions avec vous, Wilfried. C'est celle qui se passe à la Société Générale demain. Hein, Frédéric Koudéa qui passe la main à Slavomir Krupa. Alors évidemment, ce sont deux hommes blancs de plus de 50 ans, mais avec des profils quand même très différents. Hein,
juste Krupa, en dessous pour Slavomir Krupa, il est juste en dessous, il a 48 ans, je crois.
Ah, 48, pardon.
Il n'est pas français.
Mais n'empêche qu'il appartient pas au Sérail. Il n'a pas fait les grandes écoles comme les autres. C'est un produit interne. Il est intéressant quand même comme profil.
Oui, absolument. Non, là, on a, enfin, le sujet qui est mis en avant véritablement, c'est il y a un besoin à la Société Générale qui a longtemps été identifié, qui est la restructuration permanente de la partie banque d'investissement. Ouais. Et donc, il est important de mettre à la tête de la Société Générale quelqu'un pour lequel ce sujet qui est extrêmement technique, extrêmement difficile, si vous ne le connaissez pas de l'intérieur, c'est très difficile de prendre, d'être éclairé pour prendre les bonnes décisions, d'être véritablement éclairé pour prendre les bonnes décisions, en disant c'est peut-être plus simple d'apprendre les autres métiers de la Société Générale plutôt que le métier de la banque d'investissement.
Éric, un mot sur Slavomir Krupa et on passe à l'écologie.
Oui, non, mais je suis parfaitement d'accord avec ça. C'est quelqu'un qui sort du sérail. Or, sortir du sérail, c'est la meilleure garantie de la diversité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de la diversité, alors je serais moins catégorique qu'Emmanuel parce que, enfin, c'est des sujets sur lesquels nous on travaille beaucoup chez Tenzing. La diversité, ça demande un investissement pour pouvoir faire en sorte qu'elle se met en place. Parce qu'au final, la diversité, c'est pas seulement homme-femme, c'est une diversité du culture. Mais en général, la diversité est perçue par les grandes entreprises comme étant je prends des personnes diverses et je les formate à ma culture. Donc la diversité, finalement, on la met au placard. Hein, donc la vraie diversité, c'est celle qui respecte les différentes cultures, ouais. Et ça, on en est extrêmement loin.
Et qui est visible ou invisible, d'ailleurs.
Et qui est visible ou invisible. Donc, effectivement, le wokisme, qui est absolument une plaie absolue pour l'Occident, hein, je pense, et pour les entreprises qui commencent à le payer, ce n'est pas de mise. Il faut regarder, encore une fois, la performance. Et le successeur de Oudéa, l'intérêt, c'est qu'il va associer une grande capacité de restructuration industrielle sur la banque d'investissement.
Une main de fer aussi, apparemment.
Un management qui est réputé assez dur. Mais potentiellement également une préoccupation sur des vrais problèmes de diversité et des vrais problèmes environnementaux.
Voilà un sujet qui va redonner du baume au cœur à Emmanuel Le Chip, qui est un petit peu grognon ce matin. Plus 4 degrés, l'économie française peut-elle tenir? Le gouvernement s'y prépare. On lance une grande consultation où chacun va pouvoir dire où est-ce qu'il faut investir, où est-ce qu'il faut mettre... Ça, c'est une bonne nouvelle, Emmanuel.
Ah bah c'est surtout une nouveauté. On découvre le réchauffement climatique.
J'abandonne.
On découvre qu'il faut faire quelque chose. Non, mais si vous voulez, on est exactement... Il y a eu un éclair de lucidité chez Emmanuel Macron quand au sommet auquel on était tous présents avec notre studio BFM, où il dit il y a un moment où il faut arrêter de produire de la norme, de la règle, de l'objectif. Et il faut se concentrer sur déjà... mettons en place ce qu'on a décidé qu'on allait mettre en place. Et c'est un peu c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'en gros un con qui marche, il va quand même plus loin qu'un type intelligent qui reste assis sur son banc, quoi. Ouais. Et donc la réalité, c'est que déjà faisons et trouvons, on nous dit la transition énergétique, c'est la transition écologique, c'est 40 à 60 milliards d'investissements par an de plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Comment on les trouve? Qu'est-ce qu'on fait? Quelles incitations pour les gens? Parce que vous voyez bien que les messages catastrophistes, les annonces catastrophistes, les scénarios catastrophistes, c'est pas tellement ça.
Bah là, on est sur plus 4 degrés, c'est quand même la catastrophe.
Mais allez dire à quelqu'un qui, encore une fois, n'a pas d'argent pour changer sa chaudière, sa voiture, que ça va être plus 2 ou plus 4, mais vous essayez de comprendre qu'on est quand même dans l'abstraction la plus totale. Quand on nous dit en 2100, il fera 4 degrés de plus, mais quand vous n'avez pas la possibilité de boucler vos fins de mois et malgré votre bonne volonté de vous payer votre transition énergétique, vous voyez, trouvons les moyens d'abord d'avancer.
Éric, vous avez les moyens d'avancer?
Oui, alors déjà, je voudrais rappeler que quand vous prenez des villes aujourd'hui, prenez Paris, prenez Séville, 4 degrés de différence en moyenne. Hein,
ça sera Séville, Paris.
Bon, c'est quand vous regardez la manière dont est structurée la ville de Séville versus la manière dont est structurée la ville de Paris, ça n'a rien à voir en termes de végétalisation, en termes d'urbanisation, en termes de gestion de l'eau. Donc déjà, regardons ce qui marche, y compris en Europe. Premier sujet. Deuxième sujet, là où je ne suis pas tout à fait en phase avec Emmanuel, c'est que mettre en évidence ça au niveau gouvernemental, c'est prendre le soin derrière de faire des bons choix, non pas au niveau central, mais de prendre conscience que notamment un sujet comme ça ne se fera qu'à travers une vraie décentralisation. Parce que le problème de Dunkerque ne sera pas le même que le problème d'Annecy. Mmh. Ça n'aura même rien à voir. Et qu'une décentralisation de ce type-là, avec des investissements aussi monstrueux, ça s'organise.
Mais,
en quoi ça change le fait de nous dire il y a plus 2 ou plus 4? Il fallait quand même le faire alors
que c'est pas la même conséquence.
Mais Naouda, on se situe comment par rapport à la prise de conscience mondiale?
Elle est assez favorable, étrangement. Paradoxalement, c'est qu'il y a cette vision française, puis de l'extérieur, une impression que les Français sont pas en avance, mais vraiment dans du bon côté du manche dans la matière. Et je me permettrai juste de conseiller un article universitaire qui est paru la semaine dernière, l'Institut Polytechnique de Paris, qui porte sur le réchauffement climatique. L'adaptation est-elle possible, par deux économistes de l'environnement français, Jean-Paul van der Linden et Vincent Viguet, qui établit que l'investissement dans un un euro d'adaptation au réchauffement climatique, selon leurs calculs, peut générer 4 euros de bénéfices. Ouais. Donc, c'est intéressant à lire et intéressant à analyser de ce point de vue-là.
Merci.
Même la finance s'y met, alors.
Merci à tous d'être venus débattre avec nous et discuter de l'actualité économique ce matin. Dans un instant, sur BFM Business, c'est Nicolas Dose avec Olivier Babeau, avec Nicolas Bouzou et avec Guillaume Richard.
Et nous, on se retrouve demain matin dès 6h. Passez une très belle journée.
À demain.